Bonjour, c'est Nathalie Lévy. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast décliné de mon livre Courage au cœur et sac au dos aux éditions du Rocher, production Benjamin Vincent, Watch Audio. D'ailleurs, en passant, abonnez-vous, c'est gratuit. On va vivre ensemble une nouvelle belle histoire de transmission, de partage infini et d'entraide aussi. Vous allez voir. Bonjour Frédéric Mitterrand.
Bonjour Nathalie.
Merci beaucoup de m'accueillir chez vous aujourd'hui à Paris.
Vous êtes la bienvenue.
De qui parle-t-on là maintenant ?
Mais je crois que vous souhaitiez qu'on parle de ma grand-mère. Et ma grand-mère s'appelait Henriette. C'est un nom qui fleure bon les années 1900. Elle était née en 1900 et elle est morte en 1997. C'est-à-dire qu'elle a vécu 97 ans. Et même si ça date maintenant d'il y a plus de 23 ans, pour mes frères et moi, elle est tout le temps là, tout le temps présente. Nous sommes profondément attachés à elle. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il y a une raison toute bête, c'est que comme elle a vécu très très longtemps, lorsqu'elle est morte, moi j'avais déjà près de 60 ans. C'est-à-dire j'ai vécu ma vie avec elle. Et donc, c'était une relation, elle avait une relation d'ailleurs fusionnelle avec ses petits-enfants.
Avec vous tous ?
Oui, avec les trois. Et puis deux autres des cousins, nous. Mais avec nous trois, je pense que c'était un peu particulier. Peut-être un peu plus encore avec moi. Pour toutes sortes de raisons. Et la chance, c'est qu'elle est morte en bonne santé. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de sa vie, elle était... on ne pensait pas que c'était une vieille dame. C'était une dame d'un certain âge, mais... Quand elle disait, quand on a cessé de plaire, il ne faut pas déplaire. Et elle avait des tas de formules comme ça. Et donc, elle était très... elle sentait bon, elle était méticuleuse dans son apparence physique, elle était très jolie, elle était absolument adorable. Quoi. Regardez, c'était encore une femme. Quand on allait lui dire bonsoir, elle était dans son lit, c'était pas une vieille dame, c'était une femme.
Vous parlez de fusion, s'agissant de votre relation, mais comment vous qualifieriez vraiment votre relation, elle à vous, vous à elle ?
Elle à moi, ça je ne sais pas, il faudrait l'interroger. Elle avait, je crois, une tendresse particulière. Elle avait, c'est très long, il faut se reporter à son existence. Je vais écrire sur elle, si Dieu me prête vie, comme on dit. Je vais écrire sur elle parce que elle était née officiellement pendant un certain temps de parents inconnus. Ni son père, ni sa mère ne l'avaient reconnue à sa naissance. Pour une raison qui ressemble absolument à un roman 1900, son père était un monsieur de 60 ans qui n'avait jamais été marié. Toutes sortes de conjectures à ce sujet. Et sa mère était une femme qui n'était plus toute jeune, qui avait 35 ans, et qui était une femme d'un milieu aux marges de l'aristocratie, qui était, comme on disait à l'époque, tombée dans la galanterie. Et donc, lui n'a pas voulu reconnaître l'enfant de cette relation coupable, et elle, pour quelle raison, je ne sais pas. Il se trouve qu'il y avait malgré tout, dans les parages, il y avait une tante, c'est-à-dire une sœur de son père, qui lui a fait honte, qui a dit « tu ne peux pas laisser cet enfant comme ça ». J'imagine les scènes qui ont dû avoir lieu. Et finalement, quand elle a eu 3 ans ou 4 ans, il l'a reconnue. Du coup, sa mère l'a reconnue aussi.
Comment vous avez su tout ça ? C'est elle qui vous a raconté ?
Non, elle l'a su par recoupement. Puis c'est ma mère qui... Puis elle en parlait beaucoup à ma mère. Alors ma mère nous l'a raconté. Et puis un jour, je suis tombé sur son passeport. J'ai vu qu'elle ne portait pas le nom que je connaissais. Et mais c'est très, très important pour expliquer cela. Son père avait fait fortune. Et donc, comme il était assez âgé quand elle est née, évidemment, une fois qu'il l'a reconnue, il l'a adorée. elle était ravissante, elle était jolie, elle était intéressante, etc. Et quand il est mort en 1908, il en a fait sa légataire. Donc elle a hérité d'une fortune énorme. Et elle était donc à la fois une enfant naturelle à Marseille, on imagine la Société de Marseille, avec cette tante qui était, elle, une bourgeoise très, très rigide et dure, tout ça dans une maison immense à Marseille. Moi, je suis allé voir l'endroit. Et en même temps, elle était donc une enfant naturelle et la plus riche héritière de Marseille. Donc, ça intéresse, c'est déjà destiné romanesque d'une certaine manière. Et elle en a gardé dans son caractère, elle en a gardé une humilité profonde, le désir de se faire toujours accepter, que les gens admettent qui elle était, de ne jamais choquer, de ne jamais avoir de conflits violents, etc. De ne jamais, d'être agréable, facile, charmante, etc., que tout se passe bien. Et par ailleurs, elle avait un tempérament très très fort. Donc, quand dans des situations de crise, de difficulté, elle révélait un courage et une attitude devant la vie qui surprenait tout le monde, sauf les gens qui la connaissaient bien. Et par exemple, pendant la guerre, elle a été incroyable. Elle a emmené elle a emmené ma mère qui était enceinte jusqu'aux dents, ses enfants sur les routes de l'Exode. Elle qui n'avait jamais conduit de sa vie, une voiture de sa vie, elle conduisait une énorme Delahaye qu'elle savait à peine conduire, mais elle y arrivait. Elle allait voir les gendarmes en leur réclamant des bons d'essence qui ne donnaient à personne, mais devant l'autorité de cette petite femme très bien élevée, très charmante, mais à laquelle personne ne résistait, lui donnait ce dont elle avait besoin. Et tout a été comme ça dans sa vie. C'est-à-dire, tout a été un mélange de force et de bienséance, je dirais. Et alors, ce qui m'a énormément frappé, c'est qu'elle était très pieuse. Elle nous emmenait à la messe, elle avait toutes les vertus chrétiennes et aucun des défauts. C'est-à-dire qu'elle était généreuse, indulgente, solidaire. Jusqu'à l'âge de 92 ans, 93 ans à Évian, la maison était assez charmante, en bas dans la ville. Et il y avait un hôpital en haut, avec des gens qui étaient dialysés. C'était une rude montée. Et parmi ces gens qui étaient dialysés, il y avait beaucoup d'Algériens, de gens comme ça, qui étaient perdus là. Et elle montait trois fois par semaine pour leur faire leurs lettres pour la sécurité sociale et choses comme ça. Et c'était inouï de faire ça. Parce que c'était une très très vieille dame quand même. Même si je vous dis dans son apparence, on n'avait pas ce sentiment-là. Et donc, quand elle était très pieuse, elle considérait que ça correspondait au message chrétien, etc. Bon, elle a été déçue avec ses petits-enfants, mais elle n'a jamais émis la moindre critique, il n'y avait aucun problème. Et quand elle est tombée malade, elle a été malade pendant 2 mois, avant de mourir, elle a compris qu'elle allait mourir, elle avait 97 ans. Hein. Et à ce moment-là, elle n'a plus voulu voir de prêtre, elle n'a plus voulu qu'on lui parle de religion. C'est-à-dire le contraire de ce qui se passe en général. Ma mère lui disait, tu veux pas voir le père machin qui est si gentil, etc. Non, je veux voir personne. Elle a refusé tous les sacrements qu'on donne aux gens qui vont mourir. La religion n'existait plus. Et ça m'a fasciné. Ça m'a pas vraiment surpris, en fait. Parce que je savais que derrière cette apparence très gentille et sympathique, se cachait, ou cela recouvrait une volonté de faire. Et je pense que à partir du moment où elle a su qu'elle allait mourir, elle n'avait plus besoin d'être acceptée. Elle n'avait plus besoin d'être conforme à ce que la société pouvait attendre d'elle. Et donc elle s'est levée et elle est allée vers la mort toute nue, quoi, debout. Ça, c'est une chose qui m'a fasciné. Et je pense que c'est que la clé de cette mort se trouve dans la clé de sa naissance. Et que ça explique toute sa vie. Elle a été très malade quand elle avait 35 ans. Elle a eu la tuberculose, qui était à l'époque, c'était la montagne magique. Enfin, c'était une période comme ça, très, très... la maladie, la tuberculose, c'était quelque chose qu'on n'osait même pas avouer. Et elle s'est retrouvée pendant 3 ans dans ce sanatorium au-dessus de Saint-Gervais qui s'appelait San Selmos. C'est là où est morte Marie Curie d'ailleurs. Et elle a passé 3 ans presque seule là, avec des gens qui mouraient tout le temps. Hein. Et elle était vraiment en grand danger. Et elle écrivait, alors j'ai toutes les lettres qu'elle écrivait, mais elle ne se plaignait jamais. Elle parlait de ses lectures, de ce qui lui arrivait, etc.
Et qu'est-ce qu'elle vous a raconté à vous précisément? Parce que quand on vous entend, on voit bien que vous savez énormément de choses de son existence, or...
Par bribes. Vous savez, on ne raconte pas beaucoup de choses dans les familles,
en fait.
C'est pour
ça, ouais.
On ne raconte pas beaucoup de choses dans les familles. Mmh. Les enfants posent des questions, il y a des réponses.
Vous avez cherché, alors?
Oui, j'ai cherché, et puis je vous dis, j'ai vécu très longtemps avec elle. Nous avons vécu très longtemps avec
elle. Qu'est-ce que vous faisiez avec elle? Qu'est-ce que vous partagiez avec elle au quotidien ou quand
L'actualité. On parlait de l'actualité. Et elle était plutôt à droite, sans... Oui. Quand on était sur un problème précis, qu'elle ne connaissait pas forcément, alors on en parlait, voilà. Mais elle était plutôt pour l'ordre. Je me souviens, la seule fois où je me suis engueulé avec elle, c'était en 68. Le lendemain de la rue Gay-Lussac, il y avait toutes les voitures qui étaient partout dans les journaux. Et je lui ai dit, mais mamie, vous trouvez pas ça formidable quand même, cette révolte? Tu n'as pas honte de dire une chose pareille? Elle a été furieuse.
Vous la voyez, elle vous tutoyait?
Ah oui, je la voyais, on la voyait toujours. Mais elle était, vous l'auriez adorée, elle était charmante. Charmante. Et puis alors, elle avait quelque chose à quoi je suis très sensible. Elle avait des manières. C'est-à-dire que dès qu'on était chez elle ou avec elle, elle veillait à ce qu'on soit bien. Elle était fantastique. Elle avait un grand sens de l'humour. Et alors, chose très, très intéressante aussi, ma mère était pareille d'ailleurs. Ce sont des femmes qui n'ont pas fait d'études. Dans ce milieu bourgeois, la petite héritière de Marseille, elle a appris un peu à jouer au piano. Elle faisait de l'aquarelle, et puis voilà, et des bouquets de fleurs. Et on attendait de les marier. Et c'est absolument fascinant, la manière dont elle écrivait. Elle écrivait un français absolument parfait, très vivant, sans aucune faute d'orthographe évidemment, mais avec des formules, elle écrivait merveilleusement bien. Et d'où ça vient, je ne sais pas. Alors elle lisait beaucoup. Elle a toute sa vie, elle a lu au moins un livre par semaine.
On est chez vous, Frédéric Mitterrand, et il y a des livres absolument partout. C'est même,
on
l'a
faut
faire
une petite partie là.
Des détours pour arriver à un fauteuil sans tomber. Qu'est-ce que vous avez hérité d'elle justement?
J'ai hérité d'elle son exemple. Quand je vous parle de ses qualités, c'est chaque fois et de son comportement dans la vie. C'est chaque fois autant de comportements que je souhaiterais avoir, c'est-à-dire être bienveillant, courtois, voilà, sympathique, si possible, mais ne pas transiger sur les choses que je trouve les plus importantes. Et je dois dire que quelquefois les gens sont surpris quand je prends des positions sur tel ou tel sujet assez, peut-être un peu différentes de ce que mon apparence physique pourrait laisser penser. Mais en fait, ça, j'ai hérité de ça d'elle. C'est un aspect de son caractère que j'ai.
Et comment
Elle était très, très ferme, en vérité. Puis alors, s'il y avait une chose à laquelle j'étais très sensible, en ces temps de libération de la parole des femmes, etc., Elle n'avait pas de gêne. Parce que je lui ai dit, mais elle était follement amoureuse de son mari, de mon grand-père, qui était très très beau, qui avait fait une guerre formidable, la guerre de 14-18, etc. Qui était très beau, elle était absolument amoureuse de lui. Et j'ai gardé tous les papiers où elle raconte à une de ses cousines que sa tante en question voulait lui faire épouser. Je sais pas quoi, le type qui travaillait à la bourse de Marseille, qu'elle n'en voulait aucun, elle voulait uniquement celui-là qu'elle avait croisé une fois. Et il était très très beau, il était très remarquable, c'était un salaud magnifique. Je pense que c'était un de ces types qui avait été, qui avait fait une guerre très très courageuse et qui en était sorti lessivé, comme beaucoup de gens de sa génération. C'est-à-dire amer et cynique. Et il l'a ruiné. En 40 ans, il a dépensé tout l'argent. Il l'a un peu trompé, ou même pas mal au début. Ma mère me raconte qu'un jour, elle a entendu une scène, parce que ça arrivait très très peu souvent, mais de temps en temps, elle s'est révoltée. Et que ma grand-mère avait jeté son alliance par la fenêtre. Hein. Ça avait été une chose qui avait tout à fait surpris. Et un jour, ma mère m'a raconté aussi qu'un jour à Marseille, elles vont dans un magasin un peu élégant, genre d'argenterie, etc. Et ma grand-mère prend la main de ma mère, elle serre de très fort et dit « Tu vois cette femme-là, hein, c'est un danger pour moi. » Elle montrait une femme qui avait sans doute été la maîtresse de son mari. Mais en même temps, il ne pouvait pas ne pas l'aimer parce qu'elle était totalement aimable. Et quand elle était très malade, elle lui a manqué terriblement. Et à partir de ce moment-là, il est devenu un mari emmerdant, dépensier, tyrannique, un peu moins beau chaque année, mais pas mal quand même. Et par ailleurs, beaucoup plus gentil avec elle. Je me souviendrai toujours d'un jour, j'étais dans la voiture, moi je devais avoir 15 ans, et elle était en train de nous regarder, de nous éloigner. Et il était sympathique, hein. Il avait des travers épouvantables, mais il était sympathique. J'aimais bien vraiment. Et il s'est tourné vers moi et il m'a dit, tu vois, ta grand-mère, c'est la femme de ma vie. J'avais 15 ans. C'était impressionnant. Et puis surtout, c'est toujours impressionnant quand on a 15 ans et qu'on voit des gens qui en ont 70, dont on pense que ce sont des vieillards, et dont on se rend compte qu'ils sont jeunes. Alors un jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais mamie, comment vous avez fait quand même, quand vous êtes mariée, vous étiez totalement innocente des choses de la vie. Parce qu'on faisait toujours des plaisanteries avec mes frères. Et puis on racontait des histoires un peu salées, quelquefois. Et bah oui, oui. Oui, mais alors elle faisait la choquer, mais elle était... Il y a une image qui est assez fascinante. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur YouTube. C'est une image du prince Harry qui montre à la reine Elisabeth comment se servir d'un ordinateur. C'est une image extraordinaire. Et on voit bien qu'ils s'entendent très bien. Maintenant, je suis sûr qu'ils ne s'entendent plus aussi bien. Mais à l'époque, ils s'entendaient très bien. C'était le petit chéri, le préféré. Et il lui montre quelque chose qui est un peu inconvenant. Ce qu'il a dû voir sur son truc. Et là, elle regarde. Et puis, elle prend un air choqué. Oui, elle prend un air choqué. Mais dans cet air choqué, il y a une complicité totale. Ouais. C'est pas grave.
Ouais. C'est faussement...
Oui, alors c'était pareil avec elle. Et un jour, je lui ai demandé... Mais mamie, comment vous avez fait quand vous êtes... Enfin, vous ne saviez rien. Et comment... la première nuit, comment ça s'est passé? Mais très bien, mon chéri, très bien. Ton grand-père était un parfait gentleman. Ça s'est très bien passé. Il n'y a aucun problème. Et quelquefois, elle disait aussi, quand mes frères se disputaient avec leur fiancé, elle me disait, oui, mais tu sais, mon chéri, ça s'arrange toujours. Il y a un moment où ça s'arrange. Et c'est, tu sais, dispute de jour, réconciliation d'alcôve. Ouais. Elle me disait des choses comme ça. Elle avait des formules comme ça qui étaient très jolies, qu'on n'utiliserait plus du tout.
Ouais, très poétique.
Et c'était très joli.
Comment vous l'appeliez ?
Mamie, on l'appelait mamie. Oui.
Comment vous vous organisiez pour la voir, parce qu'elle était à Évian, comment vous vous organisiez pour la voir le plus souvent, pour être en contact avec elle le plus souvent?
C'est une matriarchie, ma famille. Il ne se passait pas de journée sans que nous ne passions ou que nous ne téléphonions à ma mère. Et donc, il ne se passait pas de journée pour ma mère sans qu'elle ne parle à sa mère. Votre grand-mère m'a dit, vous devriez appeler votre grand-mère, elle se plaint de... Elle était là tout le temps. Et moi, j'allais un week-end par mois, j'allais à Évian, jusqu'à assez tard, donc elle venait quand même. Elle était là tout le temps. Elle écrivait énormément, énormément. Donc, on avait au moins une lettre par semaine. Avec cette écriture très étrange. C'est pas une écriture de jeune fille, simple, ça. C'est très étrange, il n'y a pas des plaints et des déliés. C'est très bizarre quand même.
le petit mot que vous avez encadré, vous nous avez montré un petit mot encadré. Vous en avez eu des dizaines comme ça que vous avez tous gardé. Celui-ci, il dit quoi et pourquoi c'est celui-là qui est encadré ?
Il dit « Dors bien, mon chéri, mamie ». Celui-là, je l'ai gardé. J'ai encadré parce qu'il y a un dessin, elle a fait un dessin. Elle a dessiné des Edelweiss, je ne sais pas. Et je trouve ça... C'est touchant de penser qu'elle a fait ça, elle avait 90 ans, comme des trucs, comme des jeunes filles. C'était une perpétuelle jeune fille, en fait. Hein. Il y a quelques jours, j'étais au Flore et je vois bondir de sa voiture un jeune homme, c'est une voiture de luxe, un jeune homme avec une belle femme, ravissante, charmante, 50 ans comme ça. Et puis le jeune homme en question me parle très gentiment, me dit « Frédéric, il faut vraiment qu'on se voit, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu, etc. » Puis je parlais, je me disais « Mais comme cet homme est sympathique et plein de vie, etc. Et, » Puis il remontait dans sa voiture, puis il est parti. Et puis je me suis dit « Voilà, c'est un adolescent de 94 ans. » C'était Claude Perdriel. Un adolescent de 94 ans. Et ça, c'est l'adolescence perpétuelle. C'est un phénomène qui n'existait sans doute pas avant, à ce point-là. Bah, elle était simple. C'est une jeune fille perpétuelle. Elle avait une chose qui était touchante, c'est que à Évian, elle se levait tôt. Elle allait prendre son petit déjeuner à la cuisine en bas, toute seule. Et elle remontait. Et un ami longtemps nous l'avouait quand même. Elle se recouchait et elle regardait Amour, gloire et beauté. Enfin, le truc.
C'est formidable.
Oui. Et tous les jours, elle remontait comme une souris. Elle allait regarder Amour, gloire et beauté. Et alors, un jour, on s'en est rendu compte. Elle lui a dit : Mais mamie, comment est-ce que vous pouvez regarder des bêtises pareilles, etc. Ah, mais c'est charmant. Non, et puis. Et puis toutes ces. Oui, c'est charmant, c'est très amusant. Et je vois que ça passe encore, enfin l'équivalent.
Ouais, je crois que ça passe encore, ouais.
Avec ces voix totalement surréalistes.
Ouais, complètement.
Des histoires. Et là, ils s'appellent tous Kevin.
Et Brenda.
Kevin et Brenda, oui. C'est génial.
Elle est magique, cette anecdote-là.
Oui.
Elle est super, cette image.
Elle faisait ça comme si elle allait fumer un pétard, en fait. C'était une chose comme ça, totalement clandestine. Ah non, mais il y a eu l'histoire des pétards aussi, qui était quand même un grand moment. Alors, parce que j'avais... non, mais ça, c'est comme dans les films, quoi. C'est tellement beau que ça a dû être mis dans plein de films, d'ailleurs. J'avais un cousin que j'adore, qui habitait à Évian. À l'autre bout du jardin, il y avait une autre maison. Et ça l'aidait beaucoup pour lutter contre la solitude, parce que c'était son autre fils qui avait épousé une Américaine, qui était très gentille avec elle, s'entendait très bien, et ils étaient là. Et il y avait le fils, adorable, mais bon, qui faisait pousser du cannabis dans le jardin, au milieu du potager de ma grand-mère. Et alors, il avait évidemment expliqué à ma grand-mère que c'était des coquelicots. Et elle avait absolument pas bouffeté, elle était absolument persuadée que c'était des coquelicots. Et alors, je me souviendrai toujours, elle l'appelait parce qu'il était je sais pas où. Et elle lui disait, oui, j'ai bien arrosé tes plantes. Hein, ne t'inquiète pas, j'ai bien arrosé tes plantes. Ça intéressait beaucoup au jardinage. J'ai bien arrosé tes plantes.
Comment elle a observé, comment elle a participé à vos choix de vie personnels et professionnels?
Alors, il y avait une clé dans son comportement, c'était la solidarité absolue. C'est-à-dire, si j'étais devenu assassin, si je m'étais retrouvé en prison pour des choses terribles, je serais venu au parloir chaque fois que c'était possible. Elle aurait dit que personne n'avait compris, que voilà, c'était une solidarité absolue. Donc, elle ne portait aucun jugement sur rien. Et quelquefois, elle voyait des dames de son milieu qui n'osaient pas trop dire des choses. On savait très bien qu'elle n'aimait pas qu'on critique ses petits-enfants. Mais elle disait, mais il est très bien, c'est très bien. Oui, il est quelquefois un peu insolent, mais bon, c'est pas grave. C'était une indulgence absolue qui n'excluait pas des questionnements plutôt que des reproches quand on était seul. Mmh. Est-ce que tu crois que tu aurais dû vraiment faire ça? Est-ce que tu crois que tu aurais dû vraiment dire ça? Mais il n'y avait même pas de jugement. Y avait la simple question était un jugement. Mais il n'était pas question d'aller plus loin. Non, elle était totalement tolérante.
Et fière de vous quand, par exemple, vous avez été nommé ministre? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Mais
c'était après, ministre, c'était après. Elle est morte en 97. Hein. En revanche, elle était fière que je fasse des, qu'on me voit dans la télévision. J'avais même fait, Sabatier avait fait une émission sur les grands-mères, j'avais fait venir. Elle était ravie. Voilà. Mais en même temps, elle n'était pas du tout... La gloriole, elle ne lui faisait rien. Elle était totalement intègre, en fait. Mmh. Avec le temps, c'est peut-être parce que nous l'idéalisons, mais on n'a pas grand-chose à lui reprocher, hein, vraiment rien. Sauf d'avoir accepté peut-être que la propriété d'Evian soit morcelée par la mairie parce qu'elle n'a pas osé se disputer avec le maire, et quand on l'a poussé en lui disant il faut se disputer avec lui, non, laissez-moi tranquille. Elle voulait garder sa maison sans conflit, sans choses comme ça. Ça c'était toujours pareil parce qu'au fond ça n'avait pas tellement d'importance. Elle était très attachée à François Mitterrand. Et elle était fière aussi, hein. Elle avait des traces d'orgueil, elle avait été faite chevalier puis après officier du mérite, et François Mitterrand lui avait remis le mérite à l'Élysée. Alors elle était très fière de ça, elle était très contente, et parce qu'elle avait beaucoup compté dans la vie de François. Son mari a été fait, prisonnier en 40. Il était capitaine ou commandant. Bon, il a fini général quand même. Enfin, à ce moment-là, il était capitaine ou commandant. Et il s'est retrouvé dans un camp en Allemagne. Bon. En 41, les officiers, c'était les accords d'Arlan, les officiers qui avaient fait la première guerre ont été libérés. Il y avait un contingent, il y a eu 10 000 prisonniers qui ont été libérés. Donc lui, qui avait fait la première guerre et qui était officier. Et donc sa logique, alors lui, il était Mitterrand, hein. La logique, lui, c'était d'aller à Vichy. Donc, il a réintégré l'armée de Vichy. Alors, j'étais paniqué. Moi, quand j'allais voir les dossiers à Vincennes, j'avais peur qu'il ait fait des choses horribles. Mais non, en fait, il s'est occupé d'approvisionnement et de choses comme ça. Et donc, il passait beaucoup de temps à Vichy avec elle. Et François, quand il s'est échappé, quand la troisième fois où ça a marché... Il est allé à Vichy, il est allé chez eux. Il est arrivé chez eux et c'est elle qui l'a habillé, qui s'est occupée de lui et qui l'a couché pendant un mois. C'est-à-dire il est allé chez les beaux-parents de son frère. Mais elle avait, pendant l'exode, elle s'était arrêtée. Elle était partie un petit peu avant, hein, fine mouche, elle avait senti que ça n'allait pas. Elle s'était arrêtée chez les Mitterrand. Donc elle avait une grande... affection pour les Mitterrand, qui étaient des gens totalement différents de sa propre éducation à elle. Mais elle avait beaucoup de... Et donc elle aimait beaucoup François à cause de cette histoire-là. Et c'était resté. Il y a quand même une chose qui m'a toujours fasciné aussi. C'est que François, président de la République, s'arrangeait pratiquement chaque année dans ses rencontres avec Helmut Kohl ou d'autres présidents pour que ça ait lieu à Évian. Et comme ça, il allait la voir. Et donc, chaque année, sur la cheminée, il y avait une petite photo en plus. Et elle était
donc
très contente.
Bien.
Elle prenait un air modeste, mais elle était très contente quand même. Non, ça veut dire la qualité aussi de la relation qu'elle nourrissait avec les gens. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison. Lui, c'était une de ses caractéristiques, il gardait toujours tout le monde. Mais quand même, il avait autre chose à faire. Oui, c'était assez fascinant, ça.
Comment vous l'avez accompagné dans l'âge et dans la dépendance?
Il n'y avait pas de dépendance.
Même si, effectivement, vous m'avez dit que ça s'était fait très vite et que...
Il n'y avait pas de dépendance. Elle allait très bien. Elle venait moins à Paris, ouais. C'est tout. Jusqu'à 90 ans, elle venait à Paris en train. Ouais. Et elle dormait chez ma mère. Et puis après, elle est beaucoup moins venue et on allait la voir. Mais il n'y avait pas de dépendance. La maison était une maison qui était jolie d'ailleurs et assez grande. C'est la seule chose qui restait de sa vie. Maison qui portait son prénom, qui s'appelait l'Henriette. Maison que son père, une fois de plus saisi par le remords, avait construit pour elle. Et bien construite. Juste avant qu'il ne meure. Il y a des photos d'elle avec son père quand il inaugure la maison. En 1907 ou 1908. Oui, alors c'est une maison avec 3 étages. Donc elle passait son temps à monter et à descendre. Même ma mère n'en revenait pas. Mais je pense aussi que quand on a eu un très grave accident de santé dans la vie, qui a failli vous emporter, le reste du corps s'est tellement endurci ou tellement renforcé que... voilà. Il y a un seul sujet dont je n'ai jamais pu parler avec elle, parce qu'elle ne voulait jamais en parler, et il paraît que c'est souvent comme ça d'ailleurs, c'est que elle a eu 4 enfants, il y en a un qui est mort quand il était petit, à 3 ans. Et elle était avec mon grand-père, et il était à l'époque dans les forces d'occupation en Rhénanie, et elle a voulu revenir à Paris, parce que l'enfant avait été confié à sa belle-sœur. Elle a voulu revenir à Paris pour le voir. Mon grand-père a traîné, a fait un acte de tyrannie à laquelle il était habitué. « Non, non, il faut que tu restes avec moi, j'ai besoin de toi, etc. Ça va aller, ça va aller. » Bref, elle est partie 2 jours après. Quand elle est arrivée, l'enfant était mort. Et ça a été une... pour elle, ma mère m'en parlait de temps en temps, c'était une tragédie absolument épouvantable, mais dont elle ne voulait pas nous parler. Et quand je lui disais, alors, mamie, est-ce que vous pensez à Charles quelquefois ? Oui, oui, j'y pense. C'est tout. Mais il y avait un truc qui était compliqué quand même dans sa vie, mais qui était vraiment compliqué, qui est un vrai sujet, un sujet de film. C'est que mon grand-père, elle était amoureuse. Et elle était amoureuse de lui intellectuellement, elle était amoureuse de lui physiquement, elle ne s'en est jamais cachée. Elle était, voilà, je pense qu'elle n'a jamais eu d'autres tentations, il lui suffisait. Bon. Dans les lettres qu'il lui écrit, quand elle écrit du sanatorium, de temps en temps, parce que moi j'ai les lettres, donc je peux aller, de temps en temps il lui écrit des lettres très physiques, hein, en lui disant qu'elle lui manque physiquement, qu'il a envie de la respirer, bref, il s'entendait sur ce plan-là très très bien. Mais le big problème, qui est pour moi encore toujours une énigme, c'est que lui était le frère de Mercedes de l'oncle. La cagoule. Les salopards d'extrême droite, des gens horribles. Et même s'il entretenait des relations assez mauvaises avec sa sœur, c'était sa sœur quand même. Et elles n'étaient pas si mauvaises que ça non plus. Et ma grand-mère avait peut-être pas la conscience politique suffisamment assurée pour trouver les arguments nécessaire, mais elle avait vraiment une, je vais pas dire une répulsion, mais une résistance instinctive. Et ça, c'est une chose moi aussi qui m'a fasciné, c'est qu'elle a réussi à traverser tout ça sans se compromettre. Je l'ai jamais entendu dire une chose qui m'aurait choqué, jamais. Alors que lui, il y allait carrément. Hein. Et du côté de l'oncle, c'était l'horreur. C'était des fascistes français. Hein. En plus, c'était compliqué, cette histoire de l'oncle, parce qu'il y avait Jacques Corrèze, qui était le secrétaire de l'oncle. C'était un beau gosse, genre Tino Rossi, calamistré, comme ça. Beau gosse, et qui couchait avec Mercedes. Aussi, après la guerre, il a épousé Mercedes, qui avait 20 ans de plus que lui. Et donc, il y avait la crise. Tout ça, c'était assez crapuleux, quand même. Avec de l'argent, en plus. Et elle n'aimait pas tout ça. Elle n'aimait pas. Mais comme elle était solidaire, que c'était son mari, que c'était la famille, elle faisait quand même le minimum.
Elle vous le disait, ou vous le ressentiez, ou vous
non,
l'avez su
sentais,
après?
Non, je sentais, et... Il me disait, ah oui, ta tante Mercedes, c'est un caractère. Ça voulait dire, c'est pas mon caractère. Hein? Mais c'était quand même la sœur de son mari. J'ai toujours pensé à cette histoire que racontait Benoît Groult. En tout cas, elle raconte dans son livre que quand elle est enfant, il y a une famille juive poursuivie qui sonne à la porte, qui demande au père l'hospitalité, et le père refuse. Et elle raconte ça dans un de ses livres. Et j'ai souvent pensé à ça à propos de ma grand-mère. J'ai dit, est-ce que elle qui avait quand même assez peur de l'autorité, qui voulait être conforme, etc., je pense qu'elle aurait ouvert. Ouais. Parce que quand il y avait des choix cruciaux, elle était du bon côté. Elle est d'ailleurs allée avec mon frère Olivier, ils sont allés en Pologne quand elle avait 92 ans. Et ils sont allés visiter les camps. Ouais. Elle, pour les 4 dernières années de sa vie, elle m'en parlait tout le temps. Ce que ça avait été, cette visite. Parce que c'était une bourgeoisie française plutôt provinciale, avec des militaires, de l'argent, qui avait a priori aucune idée de rien. Je veux dire, ils avaient des idées très réactionnaires, et les filles qui n'avaient jamais été à l'école, elles suivaient ce que disait leur mari, sans réfléchir. Or, elle, de la même manière qu'elle écrivait des lettres magnifiques, de la même manière, lisant tout le temps, elle avait nourri très fortement sa capacité à la liberté. Et donc, elle n'était pas du tout... elle savait beaucoup plus de choses que les gens de son milieu, s'intéressait à beaucoup plus de choses, et elle n'avait aucun des préjugés. Il y a 10 000 histoires incroyables. Elle avait une copine qu'elle avait connue après la guerre, qui était une Américaine. Bon, elle parlait pas un mot d'anglais. Et elle avait eu pourtant des nurses anglaises, mais elle parlait pas anglais. Et sa copine habitait à San Francisco. Bon, je me rappelle, nous sommes allés pour la première fois voir mon frère Olivier, qui était étudiant à Harvard, et on est allé à New York, bon, à Boston. Et de là, elle a voulu aller voir sa copine. Et on lui a dit, mamie, il y a quelqu'un qui va vous emmener, etc. Elle avait déjà 90 ans quand même. 90 ans, c'est pas jeune. Non, c'est pas la peine. Ça. Elle est partie toute seule. On l'a amenée à l'aéroport. Elle est partie toute seule. Il fallait changer d'avion. Parce que la copine en question n'habitait pas exactement à San Francisco. Elle habitait à 2 heures de là. Elle s'est tout fait toute seule. Elle est revenue fraîche comme une rose. 4 jours après. Mais mamie, ça n'a pas été trop difficile. Oh, mais elle avait le génie, donc, souvent les vieilles personnes, de trouver la personne pour l'aider.
Qui va bien pour...
La jeune fille un peu gentille, je ne sais pas.
Je vois bien.
Elle avait tout fait toute seule. Incroyable.
Incroyable. Une vitalité quand même.
Oui. Oh,
incroyable.
Vitalité, une sorte et de...
D'exigence de...
Non, je dirais qu'il y avait un mélange de pessimisme sur le monde. Le monde est cruel et plein de gens méchants. Et d'optimisme sur ses propres capacités. Moi, j'arriverai à me débrouiller.
Quelle place elle occupe encore aujourd'hui dans votre cœur, dans votre esprit ?
Elle est là, elle est partout.
C'est-à-dire ? Racontez-nous.
Non, elle est omniprésente, on pense à elle tout le temps. Non ? J'ai une photo d'elle sur moi. Enfin. Le problème, c'est ça la mort, c'est que quand les gens meurent, les gens qui les ont aimés s'en souviennent, portent leurs souvenirs. La génération suivante, mes enfants ne l'ont pas connue. Les enfants de mes frères l'ont connu, un peu. Puis après, ça sera oublié. Et il y a comme ça des milliers de gens. Alors évidemment, il y a des gens atroces, mais tant mieux, on les oublie. Mais il y a des gens remarquables. Moi, je suis toujours fasciné par ces gens, les gens remarquables de la vie ordinaire. Et ça m'a toujours C'est l'histoire des types qui, le long des chemins de fer, ramassaient les billets que les gens envoyaient dans les trains, qui les emmenaient. On a plein de mots comme ça, de gens nous partons pour la Pologne avec, etc. Nous avons bon moral, etc. Et puis jeter les papiers par les fentes des wagons. Et il y avait des gens qui les ramassaient. les gens qui les ramassaient, il y avait, je pense que 9 personnes sur 10 ne les ramassaient pas. Mais il y avait une personne sur 10 qui les ramassait. Ça me plaît. J'aime ce genre de choses.
Vous avez mis du temps à vous relever de sa disparition ? Parce qu'elle est partie à un bel âge.
Oui, mais on avait
comme on dit.
C'est bizarre, on était très très triste, mais on était triste après, parce que la tristesse s'est installée, mais sur le moment, on s'est pas rendu compte vraiment, en fait. Pour ma mère, ça a été la fin de sa jeunesse. Tout d'un coup, enfin, elle était toujours pareille, mais c'était une brisure. Surtout que ma mère l'en avait fait voir quand même pas mal. Et donc ma mère adorait sa mère. Mais enfin, ma mère avait été alors une vraie rebelle pour le coup. Et donc, ça avait été quelquefois compliqué. Elle avait du ressentiment contre ses parents, donc ce ressentiment recouvrait aussi ma grand-mère, qui, elle, n'avait pas de ressentiment pour sa fille, mais qui était quelquefois dépassée par les événements. Pas l'habitude. Ma mère a divorcé 3 fois, elle a eu des amants, elle s'est mariée 4 fois.
C'était un peu rock'n'roll.
C'est un peu rock'n'roll pour ma grand-mère, oui. Non, mais il y a des choses. Par exemple, le frère de ma mère, Oncle Guy, était homosexuel. Bon, ça n'a jamais été dit. Jamais. Jamais. Mais enfin, quiconque regardait un petit peu comprenait. Bon. Il était très sympathique, il adorait les bouquets de fleurs, il faisait la décoration, il avait un magasin d'antiquité, etc. Et il avait un copain qui était un petit beau gosse, plus jeune que lui, genre beau gosse, quoi. Et donc le copain venait à Évian régulièrement, et puis finalement ils ont vécu ensemble pendant 40 ans. Et ma grand-mère n'a jamais rien dit, alors que c'était évident. Elle appelait mon petit Pierre. Et bon, mon petit Pierre, je vous ai préparé votre chambre. C'était la chambre à côté de celle de mon oncle. Mon petit Pierre, je vous ai préparé votre chambre. C'était comme ça.
Et vous avez pu arriver, vous présenter en couple avec elle ?
Non. Je n'avais pas fait ça. Si j'avais fait ça, ça serait très bien passé. Ouais. Mais moi, de toute façon, j'ai toujours été très, très à la fois provocant et pudique. Donc, j'ai jamais fait ce genre de choses. Je veux bien prendre des positions qui peuvent peut-être, pour emmerder les gens qui m'emmerdent ou pour aider d'autres, que ça peut aider. Mais je ne veux pas embarrasser des gens qui sont chers en leur posant un problème qui n'est pas un problème, en les impliquant. Je ne veux pas impliquer les gens.
Vous dites elle est partout, vous nous avez montré gentiment un petit mot. Expliquez-nous, ce petit mot, il est sa main.
Elle écrivait des petits mots tout le temps à tout le monde. Mais à moi aussi, chaque fois que je venais là-bas, quand je me couchais, j'étais au 3e étage, à côté de la chambre de mon petit Pierre. Et donc, je trouvais un petit mot toujours sur mon lit. Vous savez, comme dans les hôtels où ils vous mettent un petit gâteau. Un petit chocolat, mais il y avait toujours un petit mot. Mais je pensais simplement qu'elle allait monter les 3 étages. Je ne savais jamais à quelle heure elle était venue pour le faire. Non, mais j'ai des souvenirs merveilleux, je me souviens. J'étais à Évian, j'étais enfant, j'avais une otite. J'avais mal, ça fait mal les otites quand on est petit. Je me rappelle, elle m'a soigné toute la nuit, mais c'était incroyable, la gentillesse. Elle avait l'amour des enfants. Hein. Et donc, elle a eu des petits-enfants japonais, elle a eu des petits-enfants maghrébins, elle a eu des petits-enfants qui n'étaient absolument pas sortis la cuillère à la bouche d'un palais marseillais, mais qui étaient des... Elle les adorait dès qu'ils étaient petits. Quand je suis arrivé avec Mathieu, qui avait 6 ans, que j'avais, qui était le fils d'une ouvreuse, et puis sa mère était morte, etc. C'est prise de passion pour lui. Lui, il se souvient très très bien d'elle. C'est prise de passion pour lui, elle était tout le temps en train de... C'était aussi une maîtresse de maison dont on parlait des choses moi, auxquelles je suis très sensible. Je ne suis pas du tout, moi je mourrais devant une boîte de Buitoni fermée parce que ça me casse les pieds. Mais, non, mais c'est vrai, je m'en fous complètement. Mais elle a considéré qu'elle avait une sorte de boulot à faire, qui était de tenir une maison et une famille. Elle l'a fait d'une manière incroyable. Les repas chez elle, c'était incroyable. Et comme c'était soigné, comme son apparence physique. Tout était impeccable.
Bon, vous êtes très prolixe, évidemment. Vous avez vécu, vous l'avez dit, presque une vie avec elle, puisqu'elle a disparu très tard.
Ce qui est drôle, c'est que quand mon grand-père est mort, elle a vécu encore... Elle a vécu finalement plus de temps sans lui qu'avec lui. Ouais. Et Dieu sait si elle l'avait aimé, hein. Ouais. Il l'avait emmerdée, etc. Mais c'est ok si elle y était attachée. Elle était attachée par l'amour, par le corps, par le devoir, par tout le temps les enfants, etc. Et je me souviendrai toujours, il y avait son cercueil à l'église, elle a mis la main sur le cercueil, puis elle est sortie. Je ne l'ai jamais vue pleurer. Jamais. Jamais. Ma mère pleurait. Moi, je n'ai jamais vu pleurer. Jamais. C'est fantastique, mais ça recouvre ce que je vous ai dit c'est sur ça, sa propre mort.
Exactement.
J'ai jamais vu pleurer. Jamais. Elle avait souvent des accès de déprime. Mmh. Ah, j'ai le cafard, mon chéri. Viens vite, j'ai le cafard. Voilà. Elle m'a engueulé deux ou trois fois au téléphone parce que je ne venais pas assez souvent la voir. Mais elle n'était pas du tout tyrannique. Ouais. Hein. Ah, mais tu me laisses complètement tomber, c'est pas bien. Voilà. Mais non, ça tu ne peux pas. Non, maintenant, ça fait trop longtemps. Elle n'était pas du tout tyrannique. Hein. Mais, ah bon, je comprends très bien. Voilà. Je me disais, je ne peux pas ça. Mais d'ailleurs, on venait souvent la voir, hein, très souvent. Elle n'a pas du tout été isolée de ses petits-enfants, pas du tout.
Mais elle vivait seule, elle a vécu seule, donc dans cette maison à étage.
Oui, elle vivait seule. Ah, il y avait mon oncle qui, à un moment, avec mon petit Pierre, s'est installé dans la maison aussi. Non, mais il y a une séance inouïe, qui a fait rire toute la famille. Ouais. Parce que mon oncle, qui était très sympathique, il y avait mon petit Pierre, mais de temps en temps, il faisait des... Il avait séduit un gendarme. Non, mais c'est génial comme ça. Il avait séduit un gendarme qui avait quitté sa femme, ses enfants et tout.
Ah ouais.
Et la femme est venue voir ma grand-mère. En lui disant, il faut que votre fils me rende son mari. Et ma grand-mère était parfaite. Elle a dit, écoutez, moi, j'y peux rien. Je peux rien faire. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un thé? Ça avait fait rire toute la famille. Et elle avait fait aucun drame là-dessus. Mais elle avait dit qu'elle avait pas su trouver les mots pour cette femme qui avait l'air très bien. Tu sais, mon chéri, elle était très bien. Elle était très bien. Elle était pas très distinguée, mais elle était très bien. Oui, c'est le genre.
Qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire aujourd'hui de vous, de la vie que vous avez menée jusqu'à présent, de vos choix d'écriture, de tout ce que vous avez accompli?
Elle m'aurait dit, je ne sais pas si elle aurait lu La mauvaise vie, je pense qu'elle serait arrêtée. Parce qu'elle avait une cousine que j'aime beaucoup, qui est très sympathique, qui n'est pas très différente d'elle comme caractère, qui est beaucoup plus rugueuse, mais qui n'est pas indifférente. Et qui m'a dit, quand j'ai vu ton livre, je l'ai jeté dehors et je l'ai brûlé. Je dis, ah bon. Elle n'aurait pas fait ça. Mais elle n'aurait pas aimé. Mais non, écoute, tu ne peux pas écrire des choses pareilles. Écoute, non, ce n'est pas possible. Mais mamie, écoutez, c'est la littérature. Oui, enfin, bon. Puis elle n'aurait plus parlé. Elle m'aurait fait dire qu'elle n'était pas d'accord, mais ça n'aurait absolument rien changé à notre relation. Ouais. Jamais. Mais là, vous allez croire peut-être que je la mythifie, mais non, elle était vraiment comme ça. Vous parleriez à mes frères, ce serait pareil. Ils diraient la même chose.
Et justement, vous avez parlé de votre maman avec cette petite rébellion, ces séquences qu'il y a pu y avoir et tout. Elle observait comment, votre maman, la relation que vous aviez avec votre grand-mère ?
Elle était jalouse. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes avec maman pendant des heures ? Vous êtes enfermé dans votre bureau, vous parlez pendant des heures. Et on parlait de rien, on parlait de livres, de films. Je racontais des films que j'avais vus, qu'elle n'avait pas vus, qui l'intéressaient. Elle aimait beaucoup le cinéma. Elle avait été très triste quand Marilyn Monroe était morte, par exemple. Ouais, elle avait une dame qui vivait, veuve d'un général, qui habite à Évian, 70 ans, Marilyn Monroe meurt. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse quelque chose pour elle. Elle analysait très bien la chose. Elle disait beaucoup mieux que tout ce qu'on pouvait lire dans les journaux. Et je disais, mais mamie, vous lisez ces choses, comment est-ce que vous savez tout ça? Ah mais mon chéri, je lis. Vous savez tout ça, vous savez ces choses-là. Elle détestait les gens violents. Pas le problème de la bonne éducation, de la mauvaise éducation. Elle comprenait très bien que tout le monde n'avait pas les mêmes clés de savoir-vivre. Ça n'influait pas du tout pour elle. Ça n'avait pas du tout d'importance. Mais les gens qui étaient un peu... qui en rajoutaient, les gens, ça n'aimait pas.
Vulgaire.
Les gens vulgaires n'avaient pas. Elle n'était pas vulgaire, ça. Je me pose souvent la question de savoir ce que c'est que la définition de la vulgarité. Je ne trouve pas. Je la trouve qu'à contrario, les gens qui ne le sont pas. Ma grand-mère était le contraire de la vulgarité.
Frédéric, si on ouvre un petit peu, aujourd'hui, on est dans un moment dans la société où on voit bien qu'il y a une sorte de réveil, peut-être, je ne sais pas, on va voir dans les prochaines semaines. En tout cas, on se pose la question de nos aînés, parce que la société aussi est extrêmement vieillissante, avec une inversion même qui va se faire. La natalité a stagné, la durée de vie augmente. Vous avez vécu avec cette femme jusqu'à ses 90 ans et quelques. Comment on considère aujourd'hui nos aînés ? Est-ce qu'on les inclut bien dans la société ?
Écoutez, alors là, je trouve que c'est une... on entend tout le temps ça, la comparaison, on compare avec les pays du Maghreb, par exemple, ou les pays du tiers-monde, en disant, eux, ils s'occupent beaucoup mieux de leurs aînés, etc. Je ne crois pas du tout à ça. Ils s'occupent très bien de leurs aînés, mais nous aussi, on s'occupe très bien de nos aînés. Ce qui s'est passé dans les EHPAD, c'est épouvantable. C'est révélateur de la difficulté très grande qu'ont beaucoup de gens qui ont des moyens modestes d'assumer une personne dépendante. Mais d'abord, ça représente peut-être une grande minorité, mais ça représente une minorité de la population française. Tous les seniors ne sont pas dans des EHPAD, il y en a beaucoup qui sont dans les familles, beaucoup plus.
Dans les familles, vous dites ?
Dans les familles.
Ils sont chez eux, mais pas nécessairement dans les familles.
Non, peut-être chez eux, mais enfin, qui ne sont pas remis à des institutions. Moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point le désarroi dans les familles pour les gens qui étaient dans les EHPAD, qui ne pouvaient pas aller voir, etc. Le truc de dire nous sommes dans une société qui est devenue égoïste et on s'occupe pas des vieux, je n'y crois pas du tout.
C'est vrai ?
Non, je ne crois pas du tout.
Pourtant, on n'est pas dans une société du jeunisme à tout prix.
Je pense que ce sont des idées toutes faites. On est dans une société de la consommation brutale, on est dans une société du marketing, on est dans la société avec énormément de jeunes qui sont totalement incultes, qui parlent mal, qui sont dévorés par la société mercantile, qui n'ont pas, etc. Mais il y en a aussi, ça a toujours été comme ça, il y en a eu énormément qui étaient différents. Quand on parle par exemple des fascinés, je disais ça il n'y a pas longtemps, j'ai lu un texte de Léon Blois sur la France de 1870, où il parlait des émeutes, des casseurs, hein, et il disait les vauriens des quartiers, etc. Mais j'ai l'impression d'entendre ce événement. Je veux dire, les choses n'ont pas tant changé que ça. Les choses n'ont pas tant changé que ça. En revanche, il y a énormément de jeunes aussi qui correspondent à ce que apprécie le plus ma grand-mère, c'est-à-dire qu'ils font des études, qui se donnent du mal, etc. Je me méfie de tout ça. Je me méfie de toutes ces. Peut-être que c'est vrai, je ne sais pas, mais je me méfie de toutes ces analyses. En tout cas, ce que je sais, c'est que. Dans ma famille, comme dans toutes les familles lesquels nous sommes attachés. J'ai des frères, il y a des enfants partout, il y a des cousins, etc. Pas une personne âgée n'aura été laissée de côté.
Ah, alors c'est la question que j'allais vous poser.
Pas
si
une.
Si Henriette avait vécu encore, mais qu'elle était devenue véritablement dépendante.
Il y aurait eu quelqu'un avec elle. Elle serait restée dans sa maison. Tout le monde se serait cotisé. Jamais. Jamais. Je
un droit pour nous aider, un devoir pour les familles ?
C'est même pas un devoir, c'est naturel. Mmh. On ne le vit pas comme... Mais moi, je fais partie d'une société privilégiée. Hein. Je ne dis pas que des gens qui ont travaillé toute leur vie, le mari et la femme, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont des enfants qui sont grands, qui sont fatigués, qui ont été usés par le travail, et il y a une grand-mère et un grand-père qui est encore là dans la maison, qui n'a pas forcément un caractère facile, et qui tout d'un coup devient dépendant, je peux très bien comprendre qu'on cherche une autre solution. Mais de dire que nous sommes une société égoïste qui se débarrasse de ses vieux ou qui ne sait pas réfléchir à leur avenir, ça, je n'y souscris pas du tout. Mais pas du tout. Hein. Je pense que ça fait partie de ces espèces de... À l'arrivée, ça donne la folie des écolos qui veulent plus mettre des arbres de Noël et qui veulent interdire le Tour de France. C'est-à-dire, ce sont des idées fausses qui grandissent et qui deviennent des vérités. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes. Je dis simplement qu'il faut se méfier beaucoup de la présentation globale de la chose. Mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi.
Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est comme ça. Oui. Non, je pense qu'aujourd'hui, quand on veut mourir ou en tout cas vieillir décemment et chez soi, on ne peut pas. Quand on est d'un milieu, ne serait-ce que...
Dans des milieux modestes.
Voilà, modestes, n'en parlons même pas, mais voyez, moyen de gamme.
Il faut aider les aides-soignantes, il faut donner de l'argent à tous ces gens-là. C'est évident que le problème n'est pas le même qu'il y a 20 ans où les gens mouraient à 70 ans, mais aujourd'hui ils meurent à 90 ans. Tous les centenaires ne sont pas la mère de Catherine Deneuve qui, à 107 ans, fait ses courses toute
seule. Exactement, ou Emmanuel Béart qui a pu accueillir aussi sa grand-mère et vivre avec elle pendant plus de 20 ans.
Oui.
Ou moi-même qui peut aussi m'organiser pour ça. Voilà. Oui.
Mais c'est certain que la société, les institutions, de la société doivent prendre cette question. Voilà. Mais de dire que la société est devenue égoïste et qu'elle veut se débarrasser de ses vieillards, ça je ne crois pas du tout. Elle a un problème à régler et elle n'est pas aidée par les institutions comme elle le devrait. Ça c'est une vérité. Mais que les temps sont égoïstes, sont pleins de jeunes à la coiffure tampon Gex et des piercings et des tatouages et qui bousculent les vieillards et qui savent rien, etc. Il faut leur donner de claques et puis voilà. Mais je veux dire, c'est pas. Je suis très très sceptique sur tous ces grands mouvements. Non, mais on creuse ce que vous dites parce que c'est très intéressant. Fondamentalement, les valeurs de la majorité de la population sont de s'occuper des anciens, majoritairement. Alors, ensuite, il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent plus, ils ont une demande auprès de la société politique, et à laquelle la société politique répond mal. Voilà. Il n'y a pas une sorte de dérive ou de naufrage de la société qui désirerait ne plus s'occuper de ses seniors. Ça, je ne crois pas du tout. Alors ensuite, il y a des cas favorisés, comme ma famille. Ma mère est morte à 93 ans, dans son appartement, avenue Victor Hugo, alors qu'elle n'avait plus un sou. Et c'était une règle absolue pour mes frères et moi qu'elle puisse garder jusqu'à la fin de sa vie le standing de vie auquel elle avait toujours été habituée. Et elle ne s'est même pas rendue compte. Voilà. Mais pour nous, c'était même pas un débat. Mais de la même manière, peut-être qu'on a une famille qui n'est pas sans qualité quand même. Parce que quand ma mère est morte. Il y avait quand même beaucoup de meubles, d'objets jolis, etc. C'était fascinant. c'est sordide comme détail, mais pourtant c'est assez fascinant. Le partage s'est fait en 10 minutes. Et on n'a plus jamais reparlé.
Ouais. C'est rarissime.
Oui, c'est rare. Je vous dis, on est peut-être une famille quand même.
bien.
Qui a... Mais ça, c'est le legs de ma grand-mère. C'est le legs de ma grand-mère, de cette espèce de rectitude morale. Mais je vous dis, les vertus, pourtant moi je suis totalement agnostique, j'aime pas toute l'église, tout ça. Mais les vertus catholiques, qui sont d'ailleurs celles de toutes les religions, mais c'est celles qu'on lui avait enseignées. Les vertus catholiques et non pas les défauts. C'est-à-dire la bienveillance, la charité, le pardon, la gentillesse. Et la rectitude morale, on ne vole pas, on ne ment pas, on n'insulte pas les gens, on essaie de les comprendre. Mais ça, alors là, pour le coup, je peux dire que j'ai essayé de me conformer à ça. Non, mais c'était très fort. Hein. Mais vous savez, souvent les gens n'ont pas besoin de dire les choses. Ils donnent l'exemple par leur manière de vivre. Quand ma grand-mère, trois fois par semaine, allait écrire les lettres de monsieur Abdelkrim, qui ne pouvait pas faire son truc pour la sécurité sociale et pour récupérer son truc. Elle n'avait pas l'habitude de la sécurité sociale, elle ne savait même pas comment on remplissait les trucs. Elle avait même fait une formation pour savoir comment on remplit les documents.
Les trucs, ouais.
Elle a fait une formation à 80. Plus de 80 ans pour savoir comment remplir des feuilles de sécurité sociale qu'elle allait ensuite remplir pour les pauvres types en haut. D'ailleurs, quand elle est morte, il y a une avalanche de lettres de gens qui disaient généralement les enfants ou les petits-enfants. Parce que ceux qui n'arrivaient pas à faire leur lettre administrative, ou ils étaient morts, ou de toute façon, ils n'avaient pas appris non plus à écrire.
Merci Frédéric.
Voilà, bon. Ça m'a fait plaisir de parler d'elle.
C'est une forme d'hommage, là ?
Oh non, non. Non, ça me fait plaisir de parler d'elle. Parce que, voilà. Puis hier, par exemple, on a fêté les 80 ans de mon frère Jean-Gabriel. Mais on a parlé d'elle beaucoup.
Vous allez écrire sur elle maintenant ? Ça fait partie de vos projets ?
C'est prévu, oui. C'est prévu, mais j'attendais que mon oncle Guy meure, l'ami de mon petit Pierre. Mais... J'attendais qu'il meure parce que je veux quand même raconter toutes les horreurs de la cagoule aussi. Tout ce qui s'est passé, c'était abominable. Et comment est-ce qu'elle a traversé ça et comment elle nous a dit que c'était des temps épouvantables.
Merci de votre écoute et de votre fidélité à Courage au cœur et sac au dos, le podcast. Hashtag CCSD sur Twitter pour échanger et dialoguer. Et si vous souhaitez prolonger ce moment, je vous rappelle que mon livre, Courage au cœur et sac au dos, aux éditions du Rocher, est dans toutes les bonnes librairies. J'y raconte mon histoire, ma relation singulière avec Rosine, ma grand-mère. Merci à Benjamin Vincent, Watch Audio, pour la production, le partage, les bonnes ondes, bien sûr. Et puis rendez-vous très vite pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre, une nouvelle belle histoire intergénérationnelle.